Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI pour parler de football. Et aujourd'hui, tout sur la Russie. À 7 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, un arrêt sur le pays hôte de cette compétition. La Russie de Vladimir Poutine est-elle prête à recevoir la grande fête du football? Les stades sont-ils tous terminés? La population est-elle contente de se retrouver au cœur de cet événement? Et la Sbornaïa, la sélection russe, comme on dit là-bas, est-elle sportivement au point pour le match d'ouverture? Des questions que nous poserons notamment au correspondant de RFI à Moscou, Daniel Valot. Le match de la mort d'août 1942 à Kiev, légende ou réalité? La réponse dans la chronique historique de Régis Janté. Cette Coupe du Monde sera-t-elle celle de la Belgique, troisième au classement FIFA? La génération dorée des Diables Rouges de Belgique a déçu lors des dernières compétitions internationales, mais Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku ou encore Marwan Fellaini ont de grandes ambitions en Russie. Sont-elles fondées? La candidature du Maroc ne fait pas l'unanimité en Afrique. Ces dernières heures, des pays du continent se sont tournés vers la candidature nord-américaine. Pourquoi? Eh bien, nous essaierons de comprendre et poserons notamment la question à Joseph-Antoine Bell. Bonjour, Joe.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Radio Foot International.
Avec plaisir.
Ça faisait quelque temps, hein. Alors, vous êtes là aussi en tant qu'ambassadeur de la candidature marocaine, puisque vous partez vers Moscou, où sera désigné mercredi prochain le pays qui recevra cette Coupe du Monde à 48 de 2026. Il y a aussi à vos côtés Shérif Guémour de SoFoot. Bonjour Shérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Naïm Moniol.
Bonjour. Salut Naïm. Annie, salut à tous.
Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. One dream, one moment, one team. One you, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos. L'hymne officiel de cette Coupe du Monde 2018. Qui eh bien, commencera dans une semaine très exactement, puisque c'est la semaine prochaine que sera donné à Moscou le coup d'envoi de la grande fête du football au stade Loujniki de Moscou. La Russie et l'Arabie Saoudite ouvriront le bal des 64 matchs qui rythmeront cette Coupe du Monde. Mais les Russes se disent prêts pour relever le défi d'un tel événement. Ils vont accueillir 32 sélections, 736 joueurs, 1 million de supporters et d'amateurs de football et évidemment des centaines de journalistes. La Russie est-elle sensible à cet événement? Est-elle contente? Les Russes sont-ils prêts à recevoir les étrangers? On va poser ces questions à Daniel Valot, le correspondant de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Mokba, c'est comme ça qu'on dit Moscou hein, en russe, c'est ça?
Moskva.
Moskva. Ah, on va en prendre, on va apprendre des mots avec vous.
J'espère, oui.
Est-ce qu'il y a un air de fête à Mokva?
Bah, écoutez, Moskva. Alors, Moskva. Écoutez, pour l'instant, pas encore. Hein.
C'est
pas encore l'enthousiasme ou l'engouement, mais ça va sûrement arriver d'ici une semaine. Il faut savoir que les Russes s'intéressent au football, mais surtout dans les grandes villes, pas forcément partout. Et puis le sport vraiment national, c'est le hockey. Donc il y a l'intérêt, mais il n'y a pas encore une vraie passion pour le monde. Mais ça va venir sans doute. Hein.
Daniel, en tout cas, le plus important pour tous les participants, ce sont évidemment les stades. Et on a 12 enceintes dans 11 villes et toutes ces enceintes sont prêtes, c'est bien ça?
Alors absolument, donc il y avait eu une petite frayeur hein, pour certains stades, notamment le stade de Samara qui a finalement été inauguré en avril. Il y a eu plusieurs matchs dans ce stade, donc pas de problème majeur. Les alentours, les abords du stade sont encore un petit peu en chantier, mais l'essentiel c'est que les matchs pourront avoir lieu dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs la FIFA a donné un satisfecit hein, à la Russie en se disant tout à fait satisfaite hein, de l'état des stades. Les infrastructures sont également prêtes. Il faut dire que la Russie a mis le paquet financièrement, en tout cas. La Russie a dépensé 13 milliards d'euros pour ce mondial. Des aéroports ont été rénovés, des hôtels ont été construits. Donc il y a eu vraiment beaucoup de travaux pour mettre le pays au niveau de l'événement. Alors, il y a tout de même des questions sur la logistique, hein, parce que vous savez peut-être que la Russie, c'est tout de même le plus grand pays du monde. Donc, il va y avoir de sacrées distances à parcourir. Alors, de ce point de vue-là, également, il y a un effort important qui a été consenti par la Russie, notamment avec ces billets de train gratuits qui seront donnés aux supporters qui auront des billets. On ne sait pas encore très bien si ça va vraiment fonctionner, mais bon, il y a des centaines de trains supplémentaires qui ont été mis en place. Et donc, on peut s'attendre à ce que, de ce point de vue-là, ça se passe bien. Il y a aussi la question du logement, bien sûr. Et là, attention aux gens qui iront, qui profiteront de certaines plateformes de logement sur Internet, parce que quand on va à l'hôtel en Russie, on est enregistré automatiquement. Il y a cette démarche administrative qui est faite par l'hôtel. En revanche, si on va chez des particuliers, il faut faire attention à ce que cette démarche de l'enregistrement, vous allez découvrir ça aussi en Russie, soit faite auprès des autorités. Et si certains touristes oublient de le faire, peut-être qu'ils auront des soucis avec la police russe.
Oui, alors vous parlez d'enregistrement. J'imagine que dans ce déploiement, il y a aussi de grandes mesures de sécurité, parce que un événement mondial maintenant... aussi, disons, comporte ce genre de volet.
Bien sûr. Alors, surtout que la Russie a été victime d'attentats terroristes dans son histoire récente. Le dernier en date remonte au mois d'avril 2017 dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il y a un risque parce que la Russie est engagée militairement en Syrie, parce que un grand nombre de combattants de l'organisation l'État islamique sont originaires de Russie, du Caucase ou d'Asie centrale. Donc il y a un vrai risque de ce point de vue-là. Mais les autorités assurent que, bien sûr, hein, tout a été mis en œuvre pour éviter un drame. Et il faut reconnaître que les mesures de sécurité dans les stades, dans les gares, dans les aéroports sont vraiment draconiennes. Donc de ce point de vue-là, on peut estimer que tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de drame. L'autre aspect sécuritaire, c'est bien sûr la question des hooligans, hein, puisque exact. Évidemment, quand on pense à la Russie, on se souvient notamment de Marseille en 2016. Alors là, malgré toutes les craintes qu'on peut avoir, on peut s'attendre à ce que ça se passe bien. D'abord parce que les hooligans russes vont rester à la maison. En tout cas, la police russe va faire en sorte qu'ils restent chez eux. Et puis il y a aussi ce fan ID, ce supporter du fan qui permet vraiment de savoir qui se rend au stade et donc de contrôler au maximum les gens. Et puis il y a aussi la question du patriotisme qui va jouer sans doute, parce que les hooligans russes, ce sont des patriotes et a priori ils vont essayer d'éviter
de gâcher la fête ou de noircir le tableau. Ils n'en ont pas besoin d'ailleurs, les Russes. Justement, arrivons sur le plan sportif qui suscite bien des interrogations. Cette équipe russe a elle aussi disputé ses matchs de préparation. Elle n'a pas beaucoup convaincu la Zbornaïa. Elle a fait match nul notamment contre la Turquie 1-1 à Moscou il y a deux jours après avoir perdu face à l'Autriche. Et d'ailleurs, on va l'entendre à la veille de la compétition. Même le chef de l'État russe, le valeureux hein, Vladimir Poutine, très sportif, eh bien, il semblait résigné. Il l'avouait sur une chaîne en Chine puisqu'il était en visite à Pékin.
En tant que pays hôte, l'objectif le plus important, c'est de faire de notre mieux pour que cette Coupe du Monde se déroule bien. Qu'elle soit une grande fête pour les millions d'amateurs de football à travers le monde. Cela sera notre réalisation la plus importante. Concernant l'équipe, je dois avouer une chose, c'est regrettable, mais l'équipe russe n'a en fait obtenu aucun résultat marquant ces dernières années. Cependant, nous avons de grandes attentes et tous nos supporters espère que les Russes pourront offrir au public un jeu moderne, enthousiasmant et spectaculaire, et qu'ils se battront jusqu'au bout. C'est difficile de dire qui est favori. Plusieurs pays sont capables de vaincre. Dans les équipes sud-américaines, je dirais l'Argentine et le Brésil. Il y a encore de très bonnes équipes comme l'Allemagne et l'Espagne.
On a l'impression, Daniel Valo, que Vladimir Poutine plagie Pierre de Coubertin. Hein. L'essentiel, c'est de participer. Il n'a pas grand espoir, les supporters russes non plus, envers leur équipe nationale.
Oui, il est tout à fait au diapason des supporters russes et des Russes en général qui ne se font aucune illusion sur les chances de leur équipe. J'ai rarement vu d'ailleurs une équipe aussi impopulaire dans son propre pays. C'est assez impressionnant. Les Russes n'aiment pas leurs joueurs de foot, ils n'aiment pas leur équipe. Faut dire que vous l'avez dit, hein, les résultats sont pas du tout au rendez-vous. Mm-hmm. Ils ont encore rétrogradé dans le classement FIFA. Ils sont désormais 70e. Du classement FIFA. Dans l'histoire du mondial, ce sera l'équipe la plus mal classée à recevoir la compétition. On est vraiment très loin des années 2000, de l'époque où l'équipe de Russie faisait rêver sportivement. Et en plus, les joueurs ont vraiment une très très mauvaise image. Ils sont considérés comme des enfants gâtés. Donc il y a pas vraiment d'engouement pour cette équipe. Alors évidemment, si l'équipe réussit à sortir de son groupe, ce qui n'est pas gagné, hein, parce qu'il y a tout de même l'Uruguay et l'Égypte dans ce groupe, donc c'est pas évident. Si l'équipe réussit à sortir de ce groupe, et ensuite on peut imaginer, une mobilisation nationale. On a connu ça dans l'histoire, dans d'autres pays, pour une équipe de Russie qui réussirait malgré tout. Contre toute attente, à avoir un bon résultat dans cette compétition.
Oui, c'est ce qu'on verra en tout cas si les supporters sont quand même au rendez-vous du match d'ouverture la semaine prochaine où vous serez, Daniel Valot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Moscou et à très bientôt. Alors, on va vous retrouver régulièrement dans Radio Foot. Merci, Daniel. Parlons de cette valeur sportive, disons, de l'équipe de Russie, Sherif Guemour. Les magazines préparés avant la Coupe du Monde nous disaient 66e, ils ont encore rétrogradé. C'est une équipe qui, on l'a vu à l'Euro 2016 notamment, n'était pas très performante ni très marquante.
Mais c'était pas mieux après. Je les ai vus.
Les matchs préparatoires.
Ouais, quelques matchs. J'ai vu un peu contre le Brésil. Par moment, il y a des petites étincelles, mais c'est une équipe qui cherche. Déjà au niveau de l'équipe type, ils n'ont pas encore trouvé la bonne carburation. Comme l'a dit notre ami Valo à Moscou, les supporters russes, le peuple russe, ne se font aucune illusion. Le niveau est vraiment pas terrible. On voit ça aussi maintenant au niveau des clubs, au niveau des grands joueurs, il y en a plus tellement. Il y a vraiment une crise à peu près à tous les niveaux. Et c'est dommage parce que le championnat s'était un peu plus restructuré. Il s'est occidentalisé, au calendrier européen. On a mis des moyens, justement, parce que Vladimir Poutine a fait payer Vladimir Pouillet. Poutine a, exigé des oligarques qui réinvestissent une petite partie de leur immense revenu.
Parce que c'est des investissements à très court terme. Finalement, les mecs qui sont liés au pouvoir, comme ils savent qu'ils restent jamais sur 10 ans, ils investissent finalement très peu. Et le gros problème du football russe, c'est vrai, si tu veux que les clubs tournent bien, mais dans les clubs qui tournent bien, il y a combien de joueurs étrangers?
Voir
des entraîneurs étrangers.
Bien sûr. Même la sélection, le 2008, l'Euro 2008, c'est Gus Hiddink. Parce que t'as pas d'école d'éducation, t'as pas de centre de formation. La Russie, quand l'Union soviétique a éclaté, toutes les institutions se sont cassées la figure, notamment sportives. Derrière, ils ont construit sur rien du tout. Vous n'avez pas de formation, pas d'éducation des entraîneurs. Leonid Slutsky, l'ancien sélectionneur qui était bon en club, qui fait des trucs bien avec le Spartak, il s'est cassé la figure. L'actuel...
Il l'a viré après l'Euro 2016.
Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais c'est pas des grands entraîneurs.
2008, c'est le dernier grand tournoi où les Russes ont fait quelque chose
c'est
de
seul.
Bien.
En tant que Russie, j'entends.
Et c'est Abramovich, le président de Chelsea, qui à l'époque apportait les subsides de la fédération. Donc c'est pour ça qu'ils avaient pu garder Gus Hiddink, qui est le payeur.
C'est un des investisseurs d'Arsenal qui a payé le salaire de Capello quand il est parti, parce que la fédération ne pouvait plus.
Joseph-Antoine Bell, c'est un peu triste peut-être que le pays hôte n'ait pas une équipe qui puisse enthousiasmer dans un pays qui en plus n'est pas un pays de football, on va dire.
Oui, mais ça c'est dommage parce que la Russie, avant, avait des équipes qui pouvaient faire illusion. Et là, la Coupe du Monde arrive au moment où ils peuvent pas. Donc le football risque à la fin d'être encore plus impopulaire chez eux. Et on pourrait ne pas leur avoir rendu service. Je sais pas, c'est véritablement dommage. Mais si on se plaint d'une équipe, du moins d'un pays hôte avec une équipe mal classée, la prochaine, comment on va faire?
Pensez au Qatar, c'est ça. Non, mais il y a peut-être une chose, Naïm, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont en plus raté cette préparation d'une équipe pour une Coupe du Monde, parce à un moment il y avait justement Capello qu'ils avaient choisi dans cet esprit-là, et après il le laisse pas vraiment travailler.
Capello, il a travaillé avec zéro moyen, zéro moyen structurel, zéro moyen financier, zéro moyen de joueurs.
Financier, il était très bien payé quand même.
Parce qu'il était payé par l'actionnaire d'Arsenal, mais la Fédé lui avait mis une carotte, il avait rien au départ. Donc tu vois, et quand t'as pas de formation, quand t'as pas la génération, t'as deux trois joueurs qui sont bons, les frères Mironchuk, ou le petit Golovin, individuellement c'est des bons joueurs, mais un groupe sur un groupe de 23, ils ont pas grand chose. Qu'ils devaient préparer depuis 2 ans, bah finalement ils ont rien préparé.
Beaucoup plus que 2 ans en fait.
Et tu l'as vérifié sur la dernière Coupe des Confédérations, ils sortent au premier tour dans un groupe où le Portugal et le Mexique jouaient avec des équipes.
Ils ont pas les joueurs, tout simplement.
Ils ont pas les joueurs.
Ils ont pas les joueurs. Je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le football risque de plus en plus d'être victime de son succès. Ça veut dire quoi? Que
concentration de moyens.
Non. Que les politiques s'en emparent parce que ça fait bien, et du coup on va octroyer les compétitions à des pays qui, vous avez entendu Poutine, il a très bien dit. Il a raison, mais c'est malheur au foot, malheur au côté sportif. C'est-à-dire qu'il a bien séparé deux victoires, la victoire de l'organisation, donc du prestige du pays, et le côté sportif. Et tout de suite, alors qu'on n'a pas encore joué, il vous a montré que sur le côté sportif, ben c'est pas grave, il s'en fout un peu, il s'en détache, et lui, c'est la gloire de la Russie qui offre 12 stades, qui va accueillir les gens, et c'est ça qui l'intéresse. Et donc, on va avoir des politiques qui vont toujours vouloir recevoir la compétition. Parce que sur le côté...
À des fins politiques.
Voilà.
Christophe ?
Oui, alors tous les voyants sont au rouge, hein, si on peut dire, pour cette équipe russe au niveau sportif. Mais c'est vrai que quand on regarde, alors l'Uruguay, favorite de ce groupe logique. Derrière l'Égypte, on voit que...
Si c'est pour dire qu'ils peuvent sortir au premier tour, voilà. On peut le dire.
Attention, et à ce moment-là, ils vont peut-être ressortir une autre analyse en disant que se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est déjà un succès.
Oui.
S'il passe le premier tour, ça va être la fin.
Oui, s'il passe le premier tour. Mais en temps normal, la Russie, on aurait dit qu'elle a eu un bon groupe. En temps normal. Un bon tirage. C'est un tirage qui lui aurait permis de passer au second tour.
Il n'y a pas l'Espagne et le Portugal.
Ils sont jamais sortis du premier tour en tant que Russie.
Alors, il y a peut-être un joueur qui se détache dans cette équipe. C'est évidemment l'attaquant Smolov qui.
Smolov. Alors, je vais vous dire, le vrai attaquant qui a manqué, c'est Kokorin.
Parce qu'en fait, Kokorin. Oui, parce qu'il y a une sacrée liste.
Alors, il y a une liste de blessés terribles. Notamment Kokorin qui avait été très bon avec le Zénith sous Mancini. Donc ils vont jouer avec Smolov et puis Dzoubia devant, qui vont marquer ce qu'ils peuvent, hein, parce que globalement c'est une équipe qui est faible, les attaquants sont pas spécialement alimentés en ballon. À suivre quand même le petit Golovin et les frères Mironchuk, des trois milieux de terrain qu'on aimerait bien, moi j'aimerais bien les avoir en Ligue 1 tous les week-ends, mais qui sont quand même relativement esselés dans cette équipe où il y a très peu d'attaquants et finalement une défense très poreuse.
Akinfeev, qui était un grand espoir au niveau des gardiens mondiaux il y a 7-8 ans, il s'est blessé, il n'est jamais revenu. Reste un bon gardien. C'est pas.
Mais ce qui est terrible quand même pour la Russie, c'est ce passage de l'Union soviétique à la Russie. Parce qu'auparavant, il parlait de formation. Auparavant, le jeu russe avait une identité. Le jeu soviétique avait une identité.
Plutôt soviétique. Parce qu'on en avait parlé une fois pour évoquer que finalement, il y avait aussi beaucoup de joueurs qui venaient, non pas seulement de la Russie, des autres républiques, mais français, à l'Ukraine.
L'Ukraine est le vrai grand gagnant de l'explosion du bloc soviétique. C'est ça le truc.
C'est qu'à l'époque, nous, on ne connaissait pas tout ça. On savait que c'était les soviétiques, c'est tout.
Mais le Cameroun se souvient bien d'une certaine équipe russe, je crois.
94.
Un certain Salenko.
Non, 94. Ça, je m'en souviens.
Il en avait marqué combien? Combien il en avait marqué?
5 ou 6?
5.
5.
Ouais.
5, ça
en fait. Il a perdu 6 et il a mis 5. Et c'est le recordman encore. C'est le recordman encore.
Oui, bien sûr, il va être difficile de le battre.
Tu sais, quand tu contre le Panama, tu peux.
Tu sais, quand tu auras une Coupe du Monde à 48 avec.
Là, ça va arriver. Ça, c'est clair.
Thaïlande.
Enfin, des records.
Même le record de Juste Fontaine va tomber.
Il y a eu quand même un Allemagne-Arabie Saoudite en 2002. Il y a eu 8-0. T'aurais pu en mettre 5.
4 de Klose.
Ah, ben, il était pas loin, Klose.
Ouais.
Il y a une sélection en tout cas qui est déjà arrivée, elle était la première disons, parce que maintenant ça commence à se présenter, mais qui est arrivée la première en territoire russe, donc au pays de la compétition, c'est l'Iran. L'équipe surnommée d'ailleurs Team Mili a débarqué à 9 jours donc du coup d'envoi. Une équipe, c'est peut-être ça qui est intéressant dans cette équipe d'Iran. Alors, elle en est à sa 5e ouais. participation à une Coupe du Monde, Naïmé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dirigée depuis de nombreuses années par le même sélectionneur. Et en plus, quelqu'un, alors là, pour qui le ballon et le football n'est pas étranger, c'est un Portugais et c'est Carlos Queiroz.
Carlos Queiroz, ancien adjoint de Ferguson à Manchester, passé par le Real, qui a fait 3 Coupes du Monde, une avec le Portugal, une avec l'Afrique du Sud. Et ouais. ça fait 7 ans qu'il est en place. Et dans cette confédération, et surtout en Iran, c'est un record, c'est extraordinaire. Il arrive à travailler sur du long terme.
Pas qu'en Iran d'ailleurs, et pour beaucoup de pays.
En plus, oui, dans toutes les confédérations, un sélectionneur qui reste 7 ans. Et ce qu'il bâtit depuis 7 ans, et surtout après le Mondial 2014, qui avait été très compliqué pour eux, avec très peu de moyens. Ils avaient un jeu de maillot pendant la compétition, si tu te rappelles bien, en 2014. Il est resté, il a bâti un truc.
Terrain, ouais.
Il a ratissé toute la diaspora iranienne qui est en Europe. Il y a 12 joueurs sur 23 qui viennent d'Europe, de différents clubs, notamment grecs et hollandais. Et il a bâti une équipe qui a survolé ses éliminatoires. Ça reste au niveau asiatique, dans un groupe avec l'Espagne, le Portugal. Évidemment qu'ils n'ont pas affronté des joueurs pareils. Mais ça reste une équipe valeureuse où il n'y a pas de stars. C'est un gros collectif, une grosse défense. Et j'espère pour eux qu'ils vont faire le meilleur parcours possible.
Shérif ?
Non, pas plus, ouais. C'est exactement.
Cette équipe, en tout cas, elle se retrouve effectivement dans un groupe compliqué quand même, parce qu'elle se retrouve avec le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
Ouais, mais c'est la seule équipe qui n'a pas la pression finalement, parce que l'Espagne et le Portugal sont les favoris logiques, c'est bien normal. Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup du Maroc, Hervé Renard, la sélection marocaine, ça joue bien, c'est peut-être l'épouvantail, ils peuvent taper le Portugal parce que machin, tout ça. Finalement, c'est la seule équipe, j'ai envie de dire, dont on n'attend rien. Et peut-être que dans un groupe comme ça, peut-être l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on n'attend absolument rien d'elle. C'est une équipe qui joue un petit peu au ballon, un peu comme les équipes maghrébines.
Ah oui, il faut le dire, oui, parce qu'en 2014, ils n'ont pas été ridicules. Je me rappelle contre l'Argentine, notamment.
Ils battent la Bosnie, ils font un nul contre l'Algérie.
Je pense qu'on n'en attend rien et que malheureusement, c'est pas pour ça qu'ils vont sortir du groupe.
Oui.
Ça, je pense que.
Non, a priori, non.
Si on n'en attend rien, non. L'avantage, c'est simplement qu'au pays, ils ne vont pas se faire insulter. Mais ils ont 3 équipes qui, elles,
ont plus de pression.
Ont de l'ambition et quelque chose dans le moteur.
C'est la seule qui n'a finalement rien à perdre.
Elle n'a rien à perdre. Donc, oui, les joueurs peuvent se faire plaisir. Ça, c'est autre chose. Ils peuvent se faire plaisir en donnant tout, en étant contents de bien jouer. Ils ne pourront pas créer 3 surprises. C'est pas possible. Ils pourraient peut-être en créer une ou une demi.
Ouais.
Mais c'est un groupe un peu compliqué avec 3 équipes.
L'avantage de la Coupe du Monde pour des équipes comme l'Iran, c'est que c'est une superbe vitrine. Donc autant s'exposer. Il y a trois matchs. Il y a à peu près 15-16 joueurs qui vont jouer, à eux de saisir leur chance. Parce que là, vraiment, le monde entier a les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Par une petite révélation, un ou deux joueurs. Et ça.
Il y en a des vrais joueurs. Jean Okbash, elle a fini meilleur buteur du championnat islandais. Donc devant les attaquants de l'Ajax, attaquants du PSV, jouer à la CEDAC Mar. C'est bien de voir un mec comme ça. C'est super pour eux.
Et c'est ce qui peut dynamiser le foot au pays et puis aussi le regard des recruteurs.
Christophe, en tout cas, on les a suivis, notamment sur un petit film où on voyait leur arrivée là où ils sont installés. Et les joueurs, eux, disaient qu'ils n'étaient concentrés que dans un seul objectif, leur finale, déjà, la première. Parce que pour eux, le match le plus important, c'est celui du 15 juin et ça sera contre le Maroc.
Oui, c'est dans 8 jours. Hein, donc on a hâte d'y être parce que c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que ce jour-là, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se jouer et pour le Maroc et pour l'Iran.
Absolument.
Et je pense que l'Iran n'est pas mécontente non plus de commencer par le Maroc.
Il y a aussi des bisbilles politiques. Hein. Je rappelle que le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Donc il va y avoir pas mal de
charges.
Ouais. Oui. Les Iraniens sont pas sensibles.
Par rapport à il y a 4 ans, l'Iran a fait une vraie préparation déjà. C'est-à-dire que comme il y avait un embargo vis-à-vis du plan nucléaire machin, ils avaient fait 4 matchs de préparation en 1 an et encore contre des équipes soit africaines, soit Trinité et Tobago. Là, ils ont fait plus d'1 an de matchs amicaux. Ils sont arrivés suffisamment en avance en Russie. Ils ont pris leur quartier. Ils s'entraînent professionnellement. C'est beaucoup mieux préparé qu'il y a 4 ans. Rien que ça déjà. C'est aussi à mettre à leur crédit.
Et Queiroz connaît le Portugal et l'Espagne.
En plus. On sait pourquoi.
Ça sert.
Oui, évidemment. On va rester du côté de l'Europe de l'Est. On va retrouver notre chroniqueur historique, Régis Janté. Et nous retrouvons Régis Janté et l'histoire du football russe, objet de son livre à notre correspondant dans le Caucase, Football, le ballon rond de Staline à Poutine, livre qu'il nous présentera mercredi prochain à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Reprenons donc le fil de votre histoire, Régis Janté, les liens entre football et propagande dans cette Union soviétique, et particulièrement ce fameux match de la mort disputé à Kiev le 9 août 1942, dans la capitale de l'Ukraine, alors contrôlée par l'Allemagne nazie. Mais ce match ne serait qu'une légende.
À vrai dire, c'était propagande contre propagande, nazi contre soviétique. Un mini-championnat est organisé à l'été 42 entre des équipes ukrainiennes et d'autres des troupes d'occupation allemandes, hongroises, roumaines. Et dans ce cadre, le 9 août 42, la Flakelf, l'équipe de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, rencontre le FC Start, une formation de Kiev, bâtie autour de Nikolai Trusevich, un gardien de but originaire d'Odessa, qui a rameuté des anciens coéquipiers qui travaillent dans la boulangerie numéro 3 de Kiev. Le match a lieu, les Ukrainiens l'emportent 5-3, la rencontre terminée, on se félicite, on prend une photo. Dans les mois qui suivent, plusieurs joueurs sont arrêtés et exécutés pour diverses raisons, mais rien à voir avec la victoire contre la Flakelf. Certains le sont par exemple pour avoir été agents du NKVD, la police politique bolchevique, d'autres pour avoir volé du pain dans la boulangerie numéro 3.
D'où vient cette légende persistante de match de la mort ?
Une fois Kiev libéré des Allemands, les Soviétiques entendent parler de l'exécution de ces joueurs. Ils enquêtent, soupçonnent les joueurs ukrainiens de collaboration avec les nazis, puis finissent par préférer voir dans ce match qu'ils ont joué contre le diable un acte de résistance dont la propagande pourrait tirer profit. L'écrivain Lev Kassil donne forme au récit et baptise la rencontre le match de la mort dans un article publié le 6 décembre 1943 dans les Izvestia. Désormais, la légende veut qu'un officier SS entre dans le vestiaire des Ukrainiens à la mi-temps, alors qu'ils mènent 3-1, et prévient que s'ils l'emportent, ils seront fusillés. Héroïques, les boulangers seraient allés jusqu'au bout, l'emportant 5-3. Résultat, tout le monde est fusillé dans les heures qui suivent.
Une légende footballistique magnifiée avec le temps donc.
Oui, par un film notamment, Treaty Time, la troisième mi-temps, grand succès du cinéma soviétique, par des commémorations aussi, où les joueurs ukrainiens étaient priés de rester chez eux, et pour cause, officiellement, ils étaient morts.
Merci beaucoup Régis Janté, et à demain pour un nouvel épisode.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Hazard. Continue son slalom géant avec le tir, repoussé, Lukaku, c'est goal. 1-0. Romelu Lukaku, 34e but de l'équipe nationale, et ça va lui faire un bien fou. Et là il passe, là Fati s'est laissé avoir, et Hazard pour le but. Et évidemment, le cadeau de Fati pour Yannick Carrasco, le but pour Eden Hazard, son 22e en équipe nationale. Batshuayi, peut-être pour une dernière action d'éclat avec ce ballon très fait, là il est. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau.
Une cerise sur le gâteau et de quoi partir avec du baume au cœur pour les Belges et notamment eh bien au cœur des supporters qui avaient rempli hier soir le stade du roi Baudouin de Bruxelles. Beaucoup de monde pour assister donc à cette victoire sur l'Égypte. Alors précisons-le, c'est une Égypte sans Mohamed Salah qui s'essaye donc à un jeu sans son meilleur joueur. Écoutons Eden Hazard qui était heureux de cette prestation face à son public.
On essaie de rassurer les fans, on l'a bien fait, on est content, on a montré du beau football. On avait montré aussi du beau football contre Portugal, mais on n'a pas réussi à, dans les derniers mètres,
à créer des occasions. On n'a pas besoin d'être rassuré, on sait la force qu'on a dans le groupe, dans l'équipe. On peut faire des mauvais matchs. Le plus important, ce sera le match contre Panama. Donc voilà, on va bien se préparer, il reste 10 jours, on sera prêt là-bas.
Des fans rassurés, mais qui demandent toujours plus, évidemment, à leur équipe nationale, puisque les Diables Rouges, c'est quand même une sacrée génération. Christophe, là, on entend Eden Hazard, mais je crois qu'on connaît pratiquement les noms de tous les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs.
Oui, on les voit jouer toutes les semaines en Ligue des Champions, hein, en gros, donc on les connaît. Mais j'ai envie de dire tout de suite qu'on les connaissait déjà il y a 4 ans.
Voire il y a 6 ans.
J'ai repris la liste, là, les principaux cadres. Là, avant 2014, il y avait Hazard à Chelsea, Lukaku à Everton, Vertonghen à Tottenham, Vermaelen à Arsenal, Kompany à Manchester City, Fellaini à United, Van Buyten au Bayern de Munich et Courtois à l'Atlético Madrid. Ça faisait déjà une belle génération dorée, on pouvait le dire déjà. Et ça n'a pas fonctionné très très loin, puisqu'ils se sont arrêtés en quart de finale, battus 1-0 par l'Argentine d'Higuain, qui avait marqué très tôt dans le match. Donc, il en était ressorti un sentiment de déception quand même pour les supporters des Diables Rouges.
Oh, oui, j'avais trouvé ça très dur d'ailleurs.
Très dur.
Bah, il y a 4 ans, une génération comme ça, être éliminée en quart par le vice-champion du monde, équipe de Lionel Messi, 1-0, ça va. Il y a pire quand même. La déception, c'est il y a 2 ans.
Oui, voilà, l'Euro.
Non, mais c'est pareil, l'Euro. Les deux, il n'y a jamais de réaction. On parle de cette équipe de Belgique. Enfin, c'est ce que les Belges disent d'eux-mêmes. Hein. Ils sont aussi réalistes que les Russes. Ils ont une équipe extraordinaire sur le papier. Là, j'ai encore les compositions là, des 2 derniers matchs. Sur le papier, c'est fabuleux. C'est au mental. Et aussi, la satisfaction un peu suffisante d'arriver jusqu'au quart de finale et de se dire, c'est déjà pas si mal. Il n'y a rien dans cette équipe qui les pousse à se sublimer. Donc, moi j'ai discuté avec des journalistes belges. Ils me disaient, on est les Belges, on est sympathiques, tout le monde nous attend. Et le pire, c'est que on se conforme à cette idée qu'on se fait de nous. Donc voilà.
À l'Euro 2016, ils arrivent dans la peau de favoris quasiment.
Bah, ils étaient premiers à ce moment-là au classement. Oui, si je me trompe pas. Hein.
C'est une très très belle équipe. On est tous d'accord là-dessus. Après, c'est au niveau du mental. Enfin,
n'oubliez pas que dans une compétition, il n'y a qu'un seul vainqueur. Hein. Et si c'est la seule marche qui est la plus difficile, les autres vous.
Mais on peut aller jusqu'en finale, Joe, même si on perd.
Mais Loss, il l'a dit. Si vous perdez en quart de finale parce que vous êtes tombé contre le futur
finaliste.
Vice-champion qui est Lionel Messi, vous pouvez très bien vous dire que c'est la faute à pas de chance
au hasard du tirage au sort.
Donc il faut le savoir ça quand on veut gagner, il suffit, c'est bien de dire par exemple on est vice-champion, mais si les deux de la finale s'étaient rencontrés en quart de finale ou en huitième, il y en a un qui serait resté. Hein. Donc je pense que les Belges, ce qu'ils peuvent se dire et ce que leur entraîneur va leur dire, c'est qu'ils ont 4 ans de plus, 2 ans de plus par rapport à l'Euro, donc plus de maturité, plus d'expérience. Et il l'a dit Hazard, on veut rassurer le public.
Exact.
Mais nous, on veut pas se rassurer parce qu'on sait qui on est maintenant. Donc, je pense que s'il tient ce genre de discours, c'est bien de dire que quand on bat l'Égypte, nous, on ne se surprend pas. On sait qu'on pouvait le faire. Que si on n'a pas battu le Portugal la dernière fois, c'est pas faute d'avoir été bon. C'est parce qu'on n'a pas réussi à marquer. Ça peut arriver un jour sur 10.
C'est très récurrent quand même de la part de la Belgique de ne pas gagner contre les grosses équipes. Je crois que mis à part le 4-3 contre la France, les Belges ne battent jamais une grosse équipe.
Quand même.
Ouais. Mais le problème de la Belgique, c'est qu'elle a 2 phénomènes. Elle a De Bruyne et Hazard. Quand ils sont en forme, elle est quasi irrésistible, cette équipe. Parce que, finalement, tu vois, le match d'hier d'Eden Hazard.
C'était pas mal, ouais.
Hier, il fait son meilleur match de la saison. Moi, je suis compté, j'ai les boules, hein. Franchement, il fait 45 minutes de fou. Il en fait 40 comme ça par an, les ballons d'or. Mais il fait pas les 40. Et puis, en plus de ça, c'est que, autour de joueurs comme ça, soit vous avez tout un collectif qui s'unit, soit le jour où ces joueurs-là sont défaillants, tout le monde coule avec eux. Le problème de la Belgique, c'est que jusqu'à présent, malgré tous les joueurs qu'ils ont dans toutes les équipes, les Mertens, les Fellaini, les machins, quand Hazard et De Bruyne ne sont pas au niveau, l'équipe coule. Ce qu'il faut pour la Belgique, c'est qu'elle arrive à gagner, même quand ces joueurs-là sont défaillants. Elle a une belle équipe, elle a un beau banc de touche. Maintenant, faut mettre en place un jeu, faut mettre une patte. Bilmot, ça a échoué, parce que l'Euro 2016 l'a montré. Martinez, on attend de voir si ça prend. On peut pas dire que les éliminatoires y apportent une réponse, parce qu'il n'y avait pas de grosses équipes.
Shérif.
À mon sens, il y a un progrès au niveau tactique. C'est-à-dire que là, ils sont passés, alors, comment on peut appeler ça, un 3-4-3 ou un 5, enfin, bon, peu importe.
Parce que les mecs, c'est des offensifs, c'est Meunier, Carrasco.
Voilà. Alors déjà sur les couloirs c'est bien, et surtout c'est que maintenant dans l'axe défensif, ce qu'on faisait pas avant, maintenant il y a les vrais, il y a Kompany, Vertonghen et Alderweireld qui sont de métier des défenseurs axiaux. Avant on mettait
sauf qu'il y a une incertitude autour de Kompany, on n'est pas sûr.
Kompany
toujours à Manchester City et même en équipe nationale.
Si on peut se passer de Kompany, je serais pas triste. Non, il y a trop de risques à prendre avec ce joueur qui a été excellent. Et devant, bon bah Lukaku, Dries Mertens et Hazard avec De Bruyne derrière.
Vous shérif, vous regrettez qu'il n'y ait pas Nainggolan.
Nainggolan, ouais, je regrette beaucoup. Ouais. Au niveau de, enfin, Nainggolan pour moi, c'est on l'a encore vu cette année contre Liverpool, c'est la révolte. Elle vient de lui, c'est lui qui plante les deux derniers buts. Le gars, il a du chien. Tu as parlé de la victoire. On a vu que lui, Nainggolan contre l'équipe de France. Dommage. Après, tu vas nous parler évidemment de son comportement sur le banc et
c'est
tout.
C'est pas, non mais ouais. Oui, bah oui, parce que tactiquement, c'est il rentre dans ce que j'explique que ouais. Pour que Hazard et De Bruyne soient bons, il faut que les mecs.
Tu vois dans l'équipe, Nainggolan à la base.
À la base, mais oui, à la base, il est, mais le problème, c'est que s'il joue.
À côté de De Bruyne.
Tu as ni De Bruyne, ni Hazard comme il faut, parce que lui, il empiète sur le jeu de ces mecs-là. Donc, tu dois le sortir de l'équipe. Ouais. Mais après, Nainggolan ou pas Nainggolan, grande saison, pas grande saison, si quand il est sur le banc, il pourrit l'ambiance du groupe, il sort. Moi, je préfère voir un sélectionneur qui prend une décision comme ça, qui fait parler tout ce que tu veux, plutôt que d'avoir un mec comme Deschamps, qui va laisser Pogba sur le terrain, parce qu'il a peur de recevoir des coups de fil s'il le met sur le banc. Tu vois? On peut pas reprocher à Martinez aussi d'avoir le courage de ses opinions quand même.
C'est le résultat final qui lui donnera tort ou raison.
Ça suppose que Deschamps avait envie de laisser Pogba. Or, peut-être que lui-même.
Je pense qu'il n'est pas idiot quand même, Deschamps. Il doit se rendre compte qu'il est très décevant depuis plusieurs années.
Non, qu'il est décevant, mais qu'il est capable de quelque chose. C'est ça le problème des entraîneurs.
C'est ce qu'on attend toujours.
Voilà.
Bon, on va rester quand même sur l'équipe de Belgique. Avec une question, parce que vous faisiez allusion à Marc Villemot, et on se souvient, durant l'Euro 2016, des énormes questions, des interrogations que suscitaient ses choix tactiques durant cette compétition. Ce n'est plus lui, mais Roberto Martinez, finalement, on le connaît assez peu, même si il a entraîné déjà des clubs importants du côté de l'Angleterre, mais c'était pas non plus des clubs qui se voient ou qu'on voit toutes les semaines, comme disait Christophe, parce que c'est Wigan, c'est Swansea, c'est Everton. Quel est ce sélectionneur? Vous parliez de schéma tactique, il a changé vraiment quelque chose? Il a donné un sens, disons, à l'équipe, selon vous, Chérif?
Bah, comme on dit en football, il a mis les vrais joueurs à leur vraie place. Ça, c'est déjà un minimum. Et moi, sur le peu que j'ai vu récemment, c'est très cohérent à savoir, on a parlé de comment ça combine devant. Moi, je trouve ça bien. Sur les côtés, il y a les mecs qu'il faut. Après, il faudra qu'il fasse le boulot défensif. Hein, Carrasco, j'ai un peu de doute, mais bon, comme il a quand même joué à l'Atlético, moi, l'apport principal, c'est au niveau tactique, c'est très très cohérent. J'ai l'impression que tout le monde est à sa place. Et après, bon, bah, on parle aussi de son adjoint qui est Thierry Henry pour la motivation. Bon, c'est quand même
et pour les attaquants.
Voilà,
aussi,
pour les attaquants. Voilà.
Amène beaucoup. C'est vrai que Lukaku est bon. Lukaku est bon en sélection. Il est régulier, bon, en club, mais il fait des fois.
Gros boulot invisible hier soir contre l'Égypte.
Mais en sélection, il est très très bon. Et tu vois la patte d'Henry sur un mec comme ça, par exemple.
Justement, Joe, c'est ce qui manquait peut-être à cette équipe de Belgique, parce que on le dit, les joueurs sont déjà de grands joueurs, mais il manquait peut-être un sens à leur jeu et à leur tactique.
Il y a toujours ce côté-là dans une équipe qu'on ne perçoit pas toujours, mais peut-être qu'on finit par s'en rendre compte quand il n'y en a pas. C'est-à-dire que des gens qui croient réellement en eux, pas qu'ils le disent, parce que comme disait Hazard, il faut le dire. Il faut vraiment le faire, et je crois que ce qui leur est arrivé avec Henry, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît bien, qui sait ce qui lui est arrivé à lui, qui a eu les yeux ouverts pendant sa carrière et qui a donc pu leur dire, parce que quand on s'arrête de jouer quelquefois, tout de suite on a comme un voile qui peut se déchirer, on se dit mais voilà ce que je faisais ou voilà ce que j'avais compris, je perçois que certains ne le comprennent pas, et je pense que c'est ce que Henry leur apporte.
C'est important justement un adjoint de ce calibre, on va dire.
Est-ce que c'est important? Moi je crois que ce qui m'a frappé, c'est ce qu'a fait Martinez.
De le choisir.
Ah oui, ça c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Ça, c'est, on l'a choisi lui, et personne ne s'attendait à ça. Et lui, il a dit... Donc ça c'est...
Oui, il n'était pas spécialement entraîneur encore.
Voilà, donc, et lui, il a senti le besoin de s'adjoindre quelqu'un qui va lui apporter ce truc-là. Et je crois que, comme il disait Nabil, la défaillance de Hazard et de Bruyne, ça risque de ne plus arriver, parce que dans une équipe comme ça, quand vous avez les deux, ils doivent pas être défaillants le même jour. Donc, je pense qu'Henry pourra aider, faire en sorte que si par hasard il y en a un qui a mal dormi, de faire en sorte que De Bruyne, parce que Hazard aura mal dormi, De Bruyne soit là. S'ils ont un, et quand il y en a un, il rattrape l'autre. Donc l'autre, à un moment, il va revenir.
Aider l'autre sur le terrain.
C'est clair.
Il y a un truc
qui
trompe pas. Rappelle, le facteur psychologique.
Ça rappelle l'équipe de France à l'époque où on disait que Gires ne pouvait pas jouer avec Platini. Et oui, ça, bon. Oui. Et puis un jour, on s'est aperçu que mais non. Et Hidalgo a bien eu raison. Les deux ont pu jouer ensemble. Et là, vous n'attendez pas la passe décisive simplement d'un seul. Vous en avez deux. Et deux très, très, très bons. Je crois que les Belges, ils ont vraiment de la chance.
Il y a un truc qui ne trompe pas. Alors, je sais pas si c'est encore la patinerie, mais ça, on le verra justement au fur et à mesure des matchs. C'est que les attaquants vont au bout de leurs actions. Ils ont peur de rien. Ils vont vraiment à la Thierry Henry. C'est-à-dire, ils ont le sens du but. Et il y a toujours sur les centres en retrait, il y a toujours un mec qui est au point de pénalty ou sur la ligne des 6 mètres qui va reprendre vraiment face au but. Et quand devant, c'est bien accaparé par Lukaku qui sert de point de fixation et avec des joueurs sur les côtés. Pour les deuxièmes ballons, il y a les De Bruyne qui peuvent tirer de loin, ils prennent leur chance de loin. Moi, une fois de plus, c'est les matchs amicaux.
C'était le schéma début d'hier soir.
Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment débordement sur les côtés. Il y a toujours un joueur en retrait. C'est ça. Alors, ils ont tiré beaucoup à côté et au-dessus de la barre. Si jamais ils pointent, hier soir, il y a 6-0.
Christophe?
Ce qu'il y a vraiment de nouveau, par rapport à il y a deux ou quatre ans, c'est le niveau de De Bruyne. Parce que lui, il a explosé.
C'est un taulier.
C'était pas le même.
Ouais, mais il a Pep Guardiola, surtout tous les jours.
Alors là, je suis peut-être d'accord avec toi.
Parce que t'étais pas d'accord avec moi avant déjà.
J'aime le débat, donc je vais aller dans ton sens. Et peut-être qu'en effet, De Bruyne, qui a pris une telle dimension, il aurait peut-être été freiné par Nengolan, comme tu dis, qui enquête
oui,
aussi sur
le repositionnement de Bruyne à Manchester City. Sert à l'équipe de Belgique. Aujourd'hui, Martinez l'utilise comme ça. Derrière, il a joué haut, c'est peut-être pas le bon exemple. En même temps, l'Égypte a tellement donné le bâton pour se faire battre que
Ça va vite aussi.
Bien sûr, mais globalement, ça, on l'a vu sur le Portugal. Aujourd'hui, il évolue vraiment dans l'entrejeu devant la défense.
Et non, mais Nengolan empiète aussi sur le.
Quand tu as à choisir entre De Bruyne et Nengolan, tu sors entre De Bruyne et Nengolan, tu sors Nengolan.
Christophe, donc ce groupe, c'est le groupe G.
Oui, alors donc on a parlé de, enfin non, Eden Hazard a parlé du Panama. Il faudra aussi ensuite affronter la Tunisie et ça se terminera avec l'Angleterre. Donc a priori, la Belgique devrait prendre l'un de ces deux tickets et pour la suite, on verra quoi.
Mmh, ouais. En tout cas, la Belgique peut être sur une belle lancée pour cette Coupe du Monde 2018 et c'est vrai que
c'est
le public belge. C'est la génération là. C'est maintenant
sûr.
C'est l'heure pour la Belgique.
Je soutiens la candidature du Maroc pour cette Coupe du Monde 2026. Tous derrière le Maroc, tous derrière l'Afrique, ensemble pour le même but.
Hello, I am Lothar Matthäus. I support Morocco's bid to host 2026 FIFA World Cup.
Olá, sou Roberto Carlos e dou meu total apoio à candidature de Marrocos para a organisation da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Bonjour, c'est Robert Kidaba Mouteba. Le Maroc va offrir une fête de football mondial.
Je suis David Trezeguet. Je suis convaincu que le Maroc va offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs, aux supporters et à tous les amoureux de football.
Mahan, Bihadafin, Wahid.
Voilà un certain nombre de parrains, un certain nombre de grands noms du monde du football qui soutiennent cette candidature du Maroc 2026. On va entendre votre voix, Joseph-Antoine Bell, puisque vous aussi, vous vous êtes mis dans ce groupe des ambassadeurs. Et dans une semaine, si la Coupe du Monde va commencer, dans une semaine, on saura qui organisera effectivement la Coupe du Monde 2026, puisqu'elle aura été attribuée la veille. 207 fédérations vont voter, puisqu'il y en a 211 à la FIFA, mais évidemment les quatre pays candidats ne peuvent pas voter. Alors on a d'un côté cette candidature de United 26, on la connaissait depuis longtemps, 2026, c'est celle des États-Unis, Mexique et Canada, celle disons d'Amérique du Nord, et puis on a celle du Maroc. Alors celle du Maroc, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, elle est partie un peu tard, elle a surtout lancé disons sa candidature et ses projets au mois d'août dernier à Rabat, on s'en souvient. Elle a brillamment passé le test technique, puisqu'elle avait peur d'être éliminée avant même de pouvoir rentrer dans le vote.
Pas très clair. On a rajouté des critères, justement.
Oui. Ils l'ont beaucoup
passons.
Mais la voilà donc en lice théoriquement jusqu'au 13, jusqu'au jour du vote. Le problème peut-être, Joseph-Antoine Bell, vous allez nous le dire si vous trouvez que c'en est un, c'est qu'on a l'impression que les pays africains ne sont plus unis derrière cette candidature.
Le problème n'est pas un problème de foot, c'est un problème beaucoup plus...
Ni d'infrastructure.
Non, ni d'infrastructure, c'est simplement que les Africains ont un passé qui les divise. Ils aiment bien chanter leur unité, mais c'est simplement en chanson. Donc quand il faut la manifester, ils ont du mal à la manifester. Mais je crois que le problème de l'Afrique, c'est que quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Donc tous ceux qui vont vous dire « soutenez, je ne soutiens plus le Maroc », c'est pour toutes sortes de raisons, sauf des raisons du monde du football. Et ça, c'est véritablement regrettable.
Vous pensez que c'est à cause du... Pardon, à cause du tweet de Donald Trump qui menaçait les pays.
Je pense que c'est
amis.
totalement les États-Unis. Il n'y a personne de normal et de libre qui va dire que il va aller dans une maison, il accepte une invitation dans une maison où les parents se chamaillent plutôt que dans une maison où les gens s'embrassent. Vous pouvez pas parler de la candidature des États-Unis, du Mexique et du Canada sans voir qu'il y a l'un des pays qui construit un mur et qui inflige des taxes aux autres qui s'engueule tout le temps. Comment vous pouvez dire que vous préférez y aller? Comment pouvez-vous ne pas voir que la compétition la plus élevée de football, c'est la Champions League? Tout le monde regarde la Champions League de football à travers le monde. Eh bien, le Maroc vous offre de regarder la Coupe du Monde aux mêmes horaires sans changer vos habitudes. Et vous allez dire, on va aller là où on change nos habitudes de regarder le foot.
On regarde les matchs en pleine nuit.
Non. Donc, forcément, et là, ce qui est regrettable, c'est que, en plus, les pays, ils ont tellement peur qu'ils ne s'en cachent pas. Donc, il faut donner des gages politiques. Et donc, on vous dit, nous n'allons pas voter pour le Maroc parce que notre gouvernement nous l'a demandé. La règle de la FIFA, c'est d'avoir des fédérations qui soient totalement indépendantes et qui prennent leurs décisions indépendamment d'une tierce personne. En l'occurrence, le gouvernement qu'on soupçonne toujours de s'en mêler. Donc là, d'avoir ça et sans réaction de la FIFA, là aussi, on est un peu gêné.
Ouais. Christophe,
on va reprendre l'exemple de l'Afrique du Sud parce que c'est plus emblématique. Danny Jordan, en avril, disait ce serait formidable pour l'Afrique d'avoir la Coupe du Monde pour la deuxième fois. La candidature du Maroc est africaine. Ça, on est en avril.
Et puis, c'est devant moi. C'était moi qui étais et cette déclaration.
Le président de la Fédération sud-africaine.
Qui a dit je porte le bâton de maréchal pour rassembler tous les autres.
Donc, derrière le Maroc.
Ouais.
Début mai, communiqué. La SAFA, la Fédération sud-africaine, dit on ne sait pas trop, c'est pas encore décidé. Et puis finalement, il y a quelques jours, la ministre des Sports sud-africaine qui dit nous ne pouvons pas soutenir le Maroc. Notre Parlement a été très clair à cet égard. C'est le mandat du pays et c'est une obligation pour les organismes sportifs de comprendre l'agenda du pays. Voilà. Donc les questions de l'indépendance.
Voilà, on voit très bien qu'il n'y a pas d'indépendance. Or, on aurait pu penser que des gens soient plus fins, c'est-à-dire qu'on fasse pression sur la fédération sans l'annoncer, mais on l'annonce pourquoi ? Pour dire aux États-Unis, vous voyez, on l'a bien annoncé. Et donc, on voit aujourd'hui de façon manifeste que le football n'est plus libre, que le football n'est plus un sport, que le football n'est plus le lieu où on s'embrasse et où on accepte la compétition uniquement sportive.
Chérif, un petit mot ?
Oui, alors pour très très rapidement, donc on rappelle quand même que le Maroc qui vient a essuyé quand même 4 échecs dans son passé, il y a une chose qui a changé, c'est qu'avant c'était 32 pays, on est passé à 48, donc c'était pas évident au niveau de l'organisation, même si moi je pense qu'il
peut y parvenir.
Deuxièmement, par rapport à ce que disait notre ami Joseph-Antoine Bell, faut dire les réalités telles qu'elles sont. Il y a une grande offensive diplomatique et politique des États-Unis en Afrique. On parle souvent de la présence chinoise en Afrique, mais la présence américaine est très importante, d'où les pressions. Elles sont réelles, elles sont manifestes. Enfin, un dernier truc, on va parler business. Le Maroc, c'est exactement 36 millions d'habitants, et les trois pays, USA, Mexique, Canada, c'est 325 millions d'habitants, donc plus de retombées
évidemment, plus d'argent.
Et ça va jouer sur le vote des pays de l'Est, c'est tout ce que je voulais dire.
Christophe, la liste qui s'allonge.
Se sont déclarés pour United 2026, l'Afrique du Sud, le Libéria, le Zimbabwe et la Namibie, mais il reste encore une grosse quarantaine de pays africains qui pourraient voter pour le Maroc.
On y reviendra sur cette candidature, on en reparlera demain. Joseph-Antoine Bell, à demain, chers auditeurs.